milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Penaï Traoré.
Bonjour et bienvenue dans 7 milliards de voisins. Les esprits s'échauffent, on s'invective et on en vient parfois aux mains en France. Dans les transports en commun, c'était pendant les grèves il y a quelques semaines. Des manifestations qui se terminent parfois par des actes de violence. Gilets jaunes, la grève des pompiers ou encore les manifestations de l'opposition en Guinée. Dans la vie quotidienne également, on rencontre des situations qui nous amènent à être violents envers un proche. Des conflits de couple ou entre collaborateurs. Pourquoi on a recours à la violence pour se faire entendre, pour s'exprimer, pour se faire comprendre. Au boulot, quand on a envie d'envoyer son poing à la figure d'un collègue, comment ne pas céder à la violence? Ou quand on ne partage pas l'avis d'une personne, comment l'exprimer en restant dans la bienveillance tout en se respectant soi-même et en respectant l'autre? Les voisins et les voisines, et si on passait à l'ère de la communication non violente? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où le conflit vous a semblé difficile à gérer? Comment avez-vous procédé? On vous attend au 33 1 84 22 71 71, aussi sur WhatsApp pour nous laisser vos messages. Dans le milieu du travail, dans notre quotidien, dans le couple, nous aborderons le conflit et la communication non violente dans ces différents aspects de notre vie. Nous écouterons aussi le reportage d'Alix, l'hôpital dans les rues de Paris. Encore une fois, bienvenue dans 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Nathalie Achard. Bonjour.
Bonjour.
Vous donnez des formations à la non-violence au sein d'associations et vous venez de sortir aux éditions Marabout un livre intitulé « La communication non-violente à l'usage de ceux qui veulent changer le monde ». Également avec nous, Benjamin Pelletier. Bonjour.
Bonjour.
Dans le milieu du travail, dans notre quotidien également, nous allons parler de tous ces sujets. Vous avez sorti un livre qui s'appelle « Toujours plus à l'Est », publié aux auditions Piquier, et un autre livre, Les années discrètes, chez Aléa, c'est bien ça?
Aléa, oui, tout à fait.
Aléa, merci. Et merci d'être sur le plateau de 7 milliards de voisins pour discuter de tous ces sujets avec nous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que la communication non violente, Nathalie Achard?
Alors déjà, j'aimerais rajouter qu'il manque un mot sur la couverture, c'est à l'usage de celles et ceux qui veulent changer le monde. Voilà, je voulais le rajouter.
Merci.
La communication non violente, c'est une proposition qui a été faite par Marshall Rosenberg. C'est une communication pour faire vite, qui a pour objectif de me permettre d'exprimer clairement ce qui est important pour moi, tout en étant en capacité d'écouter de manière équivalente ce qui est important pour l'autre.
En quoi consiste donc le management culturel de Benjamin Pelletier ?
Alors j'interviens effectivement donc sur les questions interculturelles. Dès que les entreprises ont affaire à des pays étrangers ou bien les partenaires français avec des partenaires étrangers ou inversement. Et dans ce cadre-là, il est certain qu'on s'interroge beaucoup sur la communication interculturelle, sur les pratiques professionnelles interculturelles. Et il arrive parfois bien qu'on ait affaire à la question des conflits et savoir les déminer, les prévenir. C'est un des gros enjeux des formations qu'on dispense lors de ces sessions.
Et je précise qu'en plus de nos deux invités qui sont en plateau, nous aurons en ligne Abdou Fodesso, qui est travailleur social dans une organisation de la société civile à Dakar, au Sénégal. Tout de suite, vous allez écouter quelques réactions de nos auditeurs. Que faire quand on se retrouve dans une situation de conflit? Les réponses que certains de nos auditeurs ont laissées. Voilà, Jonathan de Kinshasa. Moi, je suis du genre à fuir les conflits et les disputes. Je me sens coupable face à une dispute, même si j'avais raison. Mais si les autres ont des conflits, je suis leader en résolution de conflits. Je pourrais même réconcilier l'Iran et les États-Unis, par exemple. Merci pour cet humour, Jonathan. Asakti, de la RDC, toujours, une fois que vous avez fait la paix avec vous-même, il n'est nul besoin d'en rajouter avec les autres. Sous son apparence de faiblesse, la non-violence découle tout naturellement de cette paix intérieure retrouvée. Elle recèle d'immenses richesses émotionnelles. Merci Asakti de la RDC. Et cher du Mali, ma dernière dispute date d'août 2019. Ça n'a pas été facile à gérer, mais un homme reste et doit être toujours responsable et être capable d'analyser. Une de mes qualités, c'est que je suis un véritable négociateur. Un négociateur dur, ce qui fait que j'affronte les conflits et je les gère. Nathalie Achard, Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions ?
Extraordinaire. Je suis fan des trois. Rapidement, fuir, oui, c'est souvent ce que nous faisons face au conflit, parce que c'est douloureux. Seulement, un conflit, je ne le fuis jamais. Il reviendra quoi qu'il arrive, et il reviendra plus fort, et il reviendra sur un autre sujet avec une autre personne. Mais effectivement, je peux avoir la culpabilité, parce que dans le paradigme classique, non-violent, dans un conflit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se soumette et quelqu'un qui ait raison. Donc, ce n'est pas un endroit où j'ai envie d'aller.
Et également, on a l'un des auditeurs qui parle de faire la paix intérieure avec soi-même.
Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Je peux pas, si dans ma poche, je n'ai pas ce que je donne à l'autre, je ne peux pas le faire. Donc effectivement, cette envie, cet élan être dans la non-violence et la paix, il faut déjà que je l'ai avec moi-même. C'est-à-dire effectivement que j'ai réussi à travailler mes propres conflits, mes propres contradictions, c'est essentiel. Et j'ai aimé aussi cette idée que c'est puissant. Ce n'est pas une posture molle, ce n'est pas une posture chamallow, c'est une posture assertive où on va être en capacité de se rencontrer dans nos humanités parce que le conflit est inévitable. Nous nous rencontrons avec nos différences, donc forcément, ça gratte un peu.
Se rencontrer avec ces différences, Benjamin Pelletier, vous, c'est votre domaine, j'imagine, vous intervenez dans les entreprises pour des formations en management interculturel.
Oui, je reprends ces témoignages à mon compte également dans le contexte d'entreprise. Et comme disait Nathalie Achard, c'est le conflit avec l'autre, c'est d'abord une question de soi-même. Et dans les formations en question, on essaie d'initier des changements. Mais on ne peut pas espérer de vouloir changer les autres si vous-même, vous n'êtes pas prêt à changer. Et c'est d'abord ce gros travail à faire sur soi-même. C'est un peu la source ici sur laquelle il faut travailler et ça demande une certaine humilité. Et c'est un gros défi.
Et comment la communication non violente peut-elle aider les entreprises ?
Ah ben, elle est absolument essentielle puisque quand on gère un projet avec différents partenaires, alors je vois des entreprises qui travaillent parfois avec 10, 15, 20 pays à la fois, il y a des gros enjeux industriels, des enjeux économiques. Pour eux, c'est du quotidien de travailler dans le contexte complexe, multiculturel, avec des équipes vraiment de tout un tas d'environnements. Et dès qu'il y a bien du conflit, évidemment, ça met en péril ces gros projets. Or, je voudrais juste souligner une chose, c'est que le conflit, il peut être spectaculaire. Quelqu'un parlait de dispute. On imagine des assiettes qui volent, des cris.
Oui, effectivement, on en parlera plus tard de ces différents types de violences, de conflits.
Et puis, il peut être aussi discret. Et donc, dans les entreprises, parfois, ben, c'est plus ce côté discret. On ne s'en rend pas compte qu'il peut y avoir un conflit. Et on travaille donc beaucoup là-dessus. Et cette dimension non-violente, ben, c'est vraiment essentiel.
Et cela veut dire que les entreprises ont bien conscience que les différences culturelles peuvent être source de conflits.
C'est un des enjeux possibles, pas absolument nécessaire. Mais il y a une vraie maturité lorsque vous avez une responsabilité de gros projets, ce sont des emplois derrière, c'est du tissu économique, de savoir comment gérer cette diversité et puis parfois effectivement éviter les conflits.
Et quelles sont généralement vous qui êtes formateur, quelles sont généralement les raisons de conflits pour lesquelles les entreprises vous sollicitent ?
Alors disons que ceux qui reviennent le plus souvent, ça va être le malentendu. J'ai dit ceci, j'ai demandé cela, j'ai utilisé tel mot et puis mon partenaire qui est dans un autre pays ne comprend pas exactement ce que je veux dire. Ou bien parfois j'utilise le même mot mais il a un sens ou des pratiques différentes et on ne sait pas expliciter ça au préalable. Donc ça, c'est très, très, très fréquent parce qu'on a souvent, on s'est lancé sur la coopération ensemble en se disant ben, on appartient au même secteur d'activité, donc on va forcément bien travailler ensemble. Mais sauf que derrière, on a peut-être des pratiques différentes. Ça, c'est ce qui est le plus récurrent et qui n'est pas forcément le plus risqué ou dangereux, si vous voulez. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller jusqu'à des équipes qui ne coopèrent plus du tout, des ruptures totales de communication, des projets d'implantation qui échouent, la nécessité de quitter un pays où on voulait se développer, des négociations de gros contrats qui échouent. Donc il y a toute une gradation, si vous voulez, de l'intensité ici.
Et Nathalie Achard, vous avez également cette même vision sur la communication non violente dans les entreprises ?
Oui, dans tous les groupes humains qui collaborent et qui essaient de coopérer, en fait. Le conflit, c'est vraiment imaginer le conflit dans une vision non violente, c'est de se dire que le conflit, c'est des nouvelles informations qui arrivent dans le système. Et elles arrivent en permanence. En permanence, en permanence. Donc ces nouvelles informations, soit effectivement je les gère en étant en capacité, moi, de voir ce que ça fait pour moi et ce que ça fait pour l'autre, soit je considère que ces nouvelles informations me mettent en danger mon intégrité psychique, physique, même émotionnelle, et donc je vais refuser cette nouvelle information, mais qui de toute façon va rentrer, puisqu'elle arrive avec l'autre. Et le conflit non douloureux, c'est effectivement être en capacité de gérer, et même d'être, je vais plus loin, en disant « chouette, un conflit ». C'est-à-dire que ça va être enfin l'opportunité de vraiment clarifier notre capacité ou non à collaborer et à coopérer.
Mais est-ce que les gens, ils sont toujours réceptifs dans les entreprises ? Comment ils réagissent lors des formations ?
Alors là où c'est très intéressant, c'est d'observer à la fois les réactions individuelles qui dépendent de votre caractère, de votre psychologie, quelle que soit votre origine finalement. Et puis, il peut y avoir des tendances, ce n'est pas des vérités absolues, qu'on peut observer suivant les contextes. On peut avoir des environnements où on peut avoir tendance à aller directement au conflit, à la manifestation de ce conflit pour mettre les choses sur la table. Et puis d'autres, des stratégies d'évitement. Si vous allez en Extrême-Orient, on a plutôt tendance souvent à éviter le conflit par peur de perdre la face, ce qui n'est pas forcément nos habitudes en France. Et ça, c'est très important d'identifier qu'est-ce qui vient de l'individu et puis des normes sociales qui l'influencent dans la relation au conflit.
Cette discussion, elle est déjà bien intéressante. Avant de continuer, je vous propose d'écouter ce reportage d'Alix L'Hospital. Elle a tendu son micro aux Parisiens.
Moi, je gère extrêmement mal le conflit dans ma vie. C'est-à-dire que la violence, c'est un truc que je ressens très souvent.
Quand on vous dit qu'on est dans une société violente, ça vous inspire quoi ?
Alors, je vis à Paris. Donc c'est une ville où il y a énormément de monde. Là, on sort d'un contexte de grève. Il y a beaucoup de gens qui se battaient dans le métro, par exemple. Et on sent une tension ambiante qui est assez forte. Les gens sont assez stressés, les gens sont assez énervés. Et on sent qu'à la moindre friction entre deux individus, ça peut tout de suite démarrer et ça peut tout de suite partir assez rapidement, quoi. Après, on peut tout à fait se créer des cercles comme ça avec ses amis, avec ses collègues, des cercles assez bienveillants où ça se passe bien. Mais en dehors de ces petits cercles-là qu'on arrive à créer, à Paris en tout cas, oui, il y a un contexte de violence que je ressens. Moi, ça me crispe beaucoup.
Il y a de plus en plus de gens qui très vite vous insultent, vont même parfois jusqu'à cracher sur les gens. On observe des choses quand même assez étonnantes. Mais j'ai été une fois insultée de manière totalement gratuite par des jeunes gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a très longtemps. Et je me souviens avoir été très très blessée et ça m'avait littéralement tétanisée. Parce qu'il n'y avait aucun mobile. C'était vraiment gratuit.
Et comment vous aviez réagi ?
J'avais pas très bien réagi dans la mesure où... Enfin, pas très bien réagi, je sais pas, mais j'ai été restée tétanisée. Je n'en revenais pas. Et après coup, je m'étais sentie salie, réellement.
Si quelqu'un commence à me parler avec un ton un peu élevé ou commence à... juste hausser la voix ou même employer un mot vulgaire ou qui va m'embêter, clairement je vais partir en fait. Par exemple dans le métro, là, en venant, il y avait des mecs qui étaient en train de se battre. Clairement je changeais de wagon en fait. Lors de questions que je m'impose ça dans mon quotidien.
Comment vous faites pour éviter de reproduire ce qui vous déplaît chez les autres ?
Alors, déjà moi j'ai mon casque en permanence sur les oreilles, dans la rue, quand je suis dans l'espace public en fait.
Je distinguerai des conflits intimes, familiaux, enfin voilà... Quand il y a une dimension affective importante, je peux évidemment, comme tout le monde, avoir la voix qui devient plus forte. Enfin, le ton monte, évidemment. Mais je me fais un point d'honneur à ce qu'à aucun moment, il y ait des mots orduriers, des insultes. Parce que je trouve ça très dégradant, et pour soi, et pour l'autre, et assez minable. Je crois que les gens sont violents dès lors qu'ils n'ont pas les mots pour développer leur pensée d'une certaine façon, ce qui n'est pas forcément très simple, c'est vrai, surtout quand on s'énerve. Ça se bouscule un peu dans la tête et on a du mal à argumenter, on finit par dire un peu n'importe quoi. Mais je pense que la violence, elle vient quand même d'un appauvrissement du langage, quand même.
Alors j'ai le souvenir d'une violence verbale de moi-même et je crois que c'est la seule fois où j'ai mal parlé à ma mère et vraiment je m'en souviens mais ma mère me saoulait et je voulais juste lâcher un ta gueule mais monumental mais sans aucune... juste les lâcher comme ça genre je dois avoir 12 ans dans la rue. Elle m'a pas parlé pendant genre 2 jours et je me souviens que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait juste c'est pas parce qu'un truc te venait que c'était normal de le dire. La violence forcément ça peut pas être un bon vecteur pour transmettre un message sincère en fait, ça peut pas marcher.
Le dernier conflit... Avec ma grande sœur, il y avait apparemment certainement un malentendu, enfin en tout cas quelque chose qui faisait que on n'arrivait plus trop à communiquer de manière, je dirais, simple, fluide, enfin franche. On a fini vraiment par se parler très franchement, très simplement, et je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Et alors récemment, il m'est arrivé un truc assez marrant. Je prenais le métro et il y a un monsieur qui est monté, qui était vraiment très saoul, qui m'a dit « Alors toi, j'aime vraiment pas ta gueule ». Il m'a dit ça en montant alors que je descendais. Et alors là, vraiment, j'ai éclaté de rire. Là, franchement, j'ai éclaté de rire. J'ai trouvé ça vraiment tellement, ça m'a tellement cueilli. J'étais tellement envoyée, alors un uppercut, vraiment, là j'ai ri. Alors je me suis dit, ben, t'as dû progresser, parce que si t'arrives maintenant à rire quand on te dit que t'as une sale gueule, c'est plutôt bon signe, je pense.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Alors Nathalie Achard, Benjamin Pelletier, je vous voyais réagir à ces réactions des Parisiens.
Ah oui, oui, elles sont toutes formidables, j'ai pris plein de notes. Hein. La violence, en communication de violence, on dit que c'est l'expression tragique de besoins qui ne sont pas nourris. C'est effectivement cet endroit d'impuissance à laquelle j'arrive, parce qu'il se passe tellement quelque chose d'important pour moi. La dame disait, il n'y a plus de langage, en fait, j'ai trois réactions instinctives, les plus directes qui, pour assurer ma survie quand je me sens en difficulté. La survie, ce n'est pas juste parce qu'il y a un camion qui va m'écraser. On a chacun des blessures invisibles qui font que ces notions de survie, ça peut être des choses très très complexes. Ça va être, et ça a été dit, soit je suis tétanisée,
oui,
et donc effectivement, je vais essayer de ne plus bouger pour que le danger disparaisse et ne me voie pas. C'est vraiment la logique du caméléon, et je ne bouge surtout pas. Soit je fuis, le monsieur avec son casque. Effectivement, je fuis le conflit, je ne veux pas y aller. Alors la tétanie, si ça dure trop longtemps, je disparais complètement. Hein, c'est-à-dire que ça implique des énergies de dépression. La fuite, ça ne résout rien. Ça peut être très important. Hein, l'éloge de la fuite, je conseille, c'est la réalité. Mais quand c'est systématique, c'est le déni de ce qui se passe. Autrement, c'est l'attaque. Personne ne l'a dit pour le moment. C'est effectivement, quand je me retrouve dans une situation comme ça, ben, violence contre violence, action contre réaction, je vais te montrer que c'est moi le plus fort.
Et ce que votre livre déconseille, justement, la violence
Alors, elle est inévitable. Nous sommes toutes et tous violents. Hein. Nous sommes toutes et tous en capacité de rentrer dans le conflit. Nous sommes toutes et tous en capacité de faire des choses terribles. C'est vraiment, c'est important de le dire. Il n'y a pas les bons, les méchants. Nous sommes tous dans cette capacité. C'est qu'il y a d'autres. Il y a d'autres stratégies possibles. Donc, dans le livre, je propose d'expérience d'autres stratégies à expérimenter. Ne me croyez pas sur parole, il faut le faire soi-même. Oui. Parce que cette violence-là, elle me dit des choses importantes de moi. La colère, ce n'est pas un problème. C'est si j'utilise la violence pour exprimer ma colère, oui, que ça pose un problème. Vous voyez, c'est vraiment ça, ce point.
Benjamin Pelletier, ce que vous avez entendu de la part des Parisiens, votre réaction par rapport à ça?
Ça éveille beaucoup de souvenirs personnels déjà, parce que j'habite Paris moi-même et je viens d'une petite ville des Hautes-Pyrénées, de Lourdes. J'ai étudié à Toulouse. Et voyant une petite ville, une moyenne, une grande ville, j'ai vu évoluer aussi le relationnel avec les autres.
La réaction des uns et des autres.
Et on s'interroge beaucoup sur pourquoi on se parle moins entre voisins, pourquoi on se connaît moins et pourquoi il y a cette montée dans la violence. Et c'est manifeste qu'il y a une rupture progressive du lien social avec son entourage, avec le voisinage. Dès qu'il y a du bruit, bien c'est de la plainte ou c'est tout de suite une réaction violente au lieu de dialoguer. Alors que je me souviens que à Toulouse, par exemple, dans l'immeuble où j'étais, tout le monde se connaissait. On se parlait tous. Et donc, moins on se parle, évidemment, moins on se connaît, et plus on se focalise sur les différences et on oublie les points communs. Et je crois que dans les entreprises, c'est exactement la même thématique. Finalement, on travaille beaucoup sur l'explicitation de certaines différences qui peuvent entraîner des malentendus, voire des conflits, mais aussi sur la redécouverte de points communs qu'on a oubliés du fait de ces conflits-là. Et sauf qu'on est beaucoup plus semblables que différents. Et ça, on l'a même oublié à Paris. C'est bien malheureux.
Et ces témoignages que nous avons écoutés, on a constaté qu'il y a la violence, le conflit peut se manifester dans différents domaines, dans la famille, en couple, avec des collaborateurs. Dans ce quotidien-là, vous avez dit, vous avez déjà expérimenté par rapport à là où vous avez vécu et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, dans une famille, quand il y a la violence, quand il y a le conflit, est-ce qu'on peut transposer à peu près ce qui se passe dans les entreprises ou aussi dans les familles?
Disons qu'on va en tirer des enseignements qui sont très semblables là-dessus. Moi, je vois très bien qu'un des grands enjeux, que ce soit dans une famille, en couple, en entreprise ou dans d'autres contextes, une des grandes difficultés, c'est non seulement de faire ce travail sur soi-même qu'on évoquait, mais c'est aussi d'adopter le point de vue de l'autre. Et dans les formations, donc en entreprise, on travaille beaucoup aussi sur l'émergence de nos points de vue respectifs pour le comprendre. Et très souvent, on veut imposer sa façon de faire par ignorance ou incapacité à aller collecter le point de vue de l'autre. Ou alors, on ne sait pas comment dialoguer sur nos points de vue respectifs. Et donc, on établit une passerelle, une médiation sur nos pratiques professionnelles. Et que ce soit finalement en famille ou dans quelque contexte que ce soit, la grande difficulté, c'est de se mettre à la place de l'autre et que l'autre se mette aussi à la place de la mienne. Et sauf que vous avez un obstacle entre les deux, c'est le jugement qu'on peut porter l'un sur l'autre ou l'autre sur l'un.
Mais et ça va dans les deux sens.
C'est dangereux.
Nathalie Achard, dans les situations de conflit, dans la famille, dans le couple, ou partout où l'on se retrouve, la communication non violente doit être la réponse à ces conflits.
Elle est, c'est en tout cas, j'ai toujours du mal avec le doigt parce que du coup c'est impératif. Et justement dans cette communication, nous essayons de voir ensemble comment on peut collaborer plutôt que d'exiger de quelqu'un une posture particulière. Mais en tout cas, l'observation dans cette communication violente, c'est qu'il y a une confusion entre le désaccord et le désamour. Alors dans la famille et dans le couple, à cet endroit-là, où effectivement il va être extrêmement important de continuer à nourrir des relations d'amour au sens large du terme affectif, le désaccord peut être confondu et considéré comme une rupture de lien. Donc je vais soit l'éviter, soit le transfigurer. Et puis s'il y a de la proximité et de l'intimité dans la famille, par rapport à des valeurs, par rapport à des transmissions patrimoniales aussi, par rapport à l'amour dans le couple, plus il y a l'intimité et plus je vais m'identifier à l'autre et je vais m'identifier à mes valeurs et ma vision personnelle. Et plus justement la communication non violente va m'inviter à me détacher, ça ne veut pas dire à être indifférente, mais en tout cas à différencier qui je suis de ce que je pense. Et là, si à cet endroit-là, j'ai plus de chances de rentrer en contact avec l'autre puisque l'autre n'est plus un danger mortel pour moi, c'est-à-dire que s'il n'est pas d'accord avec moi, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord avec moi, c'est-à-dire au sens premier du terme, c'est-à-dire avec la personne que je suis.
Et là, on parle de la communication entre adultes. Concernant les enfants, les tout-petits, est-ce que la communication non-violente, ça peut être une solution pour créer du bon lien entre enfants, surtout dans les écoles?
Alors, dans beaucoup d'éducations alternatives, la communication violente est présente. Déjà, sur la capacité dans la communication violente à être en lien avec ce que je ressens et à exprimer de manière authentique mes sentiments. C'est vraiment au cœur de cette communication non violente et être en capacité d'entendre les sentiments de l'autre. Moi, j'ai vu dans des écoles ce qu'on appelle les tours de météo en communication violente, c'est-à-dire le matin, je dis comment je me sens, qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai vu des scènes extraordinaires avec de très jeunes enfants qui, effectivement, sont dans de grandes capacités à exprimer leur état émotionnel et surtout à être en empathie avec les autres. Je crois que cette communication violente, elle me permet juste d'aller dans le coffre au trésor de mes compétences que j'ai depuis que je suis enfant. Ce ne sont pas de nouvelles compétences, c'est des compétences que je réactive. Donc oui, les enfants...
On doit grandir avec...
Idéalement, ce serait formidable.
Et vous l'avez dit dans votre livre, la violence se cache parfois dans les détails. La violence ne se trouve pas tout le temps dans des actes qui nous viennent, les guerres, une fusillade. C'est pas forcément ça, dans ça qu'on retrouve la violence. Dans une simple phrase, un petit mot, ça peut être violent.
Elle est présente en basse énergie absolument partout. Déjà dans le paradigme de raison, tort, bon, mal, juste, faux, la punition, même le compliment, c'est-à-dire les choses qui vont mettre dans des cases et qui vont juger, elle est absolument partout et elle est c'est là où elle est terrible parce que on ne la sent plus et pourtant elle a des effets effectivement catastrophiques.
Benjamin Pelletier, j'imagine que dans l'entreprise également on retrouve ce type de violence.
Alors effectivement, c'est la nécessité lorsqu'on travaille avec des partenaires de différents pays, de trouver un même langage professionnel. On utilise, je dis, parfois le même terme, le mot, par exemple le mot décision, on peut avoir une pratique complètement différente sur la pratique de la décision. Et du coup, effectivement, c'est le risque de malentendu qui peut entraîner un conflit se cache partout dans les mots qu'on utilise au quotidien avec le collaborateur. Et si on ne fait pas cet effort de s'expliquer qu'est-ce que tu entends par telle ou telle pratique, par telle ou telle notion, et ensuite on essaie de faire un pas l'un vers l'autre pour identifier des pratiques communes, il y a des risques de malentendu qui peuvent se dissimuler dans un petit email que j'envoie, dans une formulation. Moi, j'ai beaucoup de Français qui me disent « Regarde l'email de mon partenaire néerlandais, ces gens-là, ils sont agressifs. » Oui, parce qu'il va un peu droit au but, mais peut-être c'est pas parce qu'il est agressif, il veut être transparent. Et donc, ça, effectivement, ça part de tout petits détails au quotidien qui peuvent s'accumuler et entraîner des ruptures plus grandes.
Et dans les différences culturelles également, se dire bonjour, par exemple.
Oui, alors ça, il y a des choses amusantes. Quand on interroge des collaborateurs d'entreprises américaines, donc des Américains, qu'on leur demande « Est-ce que pour vous, c'est acceptable que votre responsable ne vous dise pas bonjour le matin ?» vous en avez plus de 52% qui disent « Oui, c'est pas très grave. » Mais les Français, il y en a 19% qui disent que c'est pas très grave, mais les Français sont 52% disent que c'est pas acceptable qu'ils disent pas bonjour le matin. Et donc les tout petits détails comme ça qu'il faut expliquer aux partenaires étrangers, c'est essentiel.
Oui. Merci, et nous continuons cette émission avec une respiration musicale. Le titre de la chanson, c'est Le Café de Odlaf.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Où est-ce que tu vas ?
Me crie mon aimé.
Prenons un kawa, je viens de m'élever.
Et tant en avance, et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien l'avouer,
Les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser. Au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre,
fort comme vous l'aimez.
Ah mince, je viens d'en prendre un. Enfin bon, maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent.
Détends-toi, René. Prends un bon cigare et un petit café.
Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Oh, mais moi j'ai envie de sauter. Oh, je fais tout Paris. Oh, et puis je vois un troquet. Oh, je commande un déca, mais un café inné. Ma secrétaire me fait.
Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété.
Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, mais avant, un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit,
vous avez l'air, s'il vous plaît.
Je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison, puis je me sers. Devinez.
Papa, mon papa, en classe, je suis premier.
Ah, mais quoi? J'en tiens de me faire chier. Oh, mais qu'il est con, ce gosse. Et en plus, il se met chier.
Écoutez 7 milliards de voisins et nous discutions déjà depuis une trentaine de minutes sur la communication non violente, notamment sur comment cette théorie peut désamorcer un conflit au travail entre collaborateurs. Mais il y a aussi le champ social qu'il ne faut pas oublier. Nous avons Abdou Fodesso au téléphone depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans 7 milliards de voisins. Vous êtes travailleur social au sein de l'organisation Unis vers elle. Vous faites la médiation entre la population et les représentants de l'État. Une mission pas toujours facile à mener. Dites-nous en quoi consiste votre travail, Abdou Fodesso.
Mon travail à moi consiste à intercéder entre les différentes composantes de la population pour voir quelles sont les situations de violation des droits fondamentaux qui sont prescrits au niveau de la Convention relative aux droits de l'enfant ou encore au niveau de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, entre autres conventions comme la Convention 138, la Convention 182 du BIT qui encadre le travail des enfants.
En fait, la Convention 188, la Convention 182, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qu'est-ce que ça dit?
La Convention 138 va réguler l'âge de l'enfant pour accéder au travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit jusqu'à 15 ans, il faut aller à l'école. Donc, d'être dans une situation d'apprentissage. Mais après 15 ans, on a la possibilité maintenant d'être dans une situation d'apprentissage de métier, donc de formation qualifiante. Alors que la Convention 182, va aller dans le sens de l'interdiction des pires formes de travail des enfants. Même si l'enfant a 15 ans et qu'il peut bénéficier d'une formation, il ne devrait pas faire l'objet de subir des formes de travail des enfants.
Et Abdou Fodesso, vous travaillez également vous avez également eu affaire avec des sujets comme le confiage, c'est-à-dire confier son enfant à une famille, à un oncle, à une tante. Il y a également des conflits sur ce plan dans votre travail. Vous rencontrez des cas difficiles, n'est-ce pas?
Absolument. Je dois dire d'ailleurs que c'est des problèmes d'actualité. Parce qu'au Sénégal, culturellement, c'est accepté de confier son enfant à un tiers et sans lui demander aucune obligation. Et l'État n'a pas mis les dispositions réglementaires qui puissent faire de sorte que celui qui est le tuteur légal ou le civilement responsable de l'enfant puisse interpeller quelqu'un par rapport à l'éducation de cet enfant ou à l'entraîne de cet enfant-là. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, quand vous faites une illustration, autour de vous, au Sénégal, tous les enfants que vous voyez dans la rue en train de mendier ont fait l'objet, disons, d'un confiage à un tiers, qui peut être un inconnu, et qui les envoie dans la rue.
Et, quand, et ces enfants, okay. quand ils sont confiés, ils rencontrent également des situations de conflits dans des familles d'accueil.
Absolument.
Quel genre de conflits, par exemple?
Déjà, le premier niveau, c'est qu'ils sont séparés de leurs parents. Et quand ils sont séparés de leurs parents, donc il y a un premier niveau de rupture de l'environnement protecteur qui bénéficie chez eux avec, entre leurs parents biologiques. Dès l'instant que l'enfant se déplace et quitte cet environnement protecteur, il va vers un tiers. Et ce tiers-là peut ne pas lui offrir toute la sécurité, tout le bien-être et tout le suivi qui conviennent pour son épanouissement. Et dans ce sens-là, il faut comprendre l'enfant qui est présent dans un dara avec un maître chronique qui a sa femme et ses propres enfants, et à côté de ces enfants-là, beaucoup d'autres enfants qui sont en situation de confiance. Donc, il n'a pas le temps de s'en occuper.
Et vous, vous intervenez justement quand il y a ces conflits. Et comment vous procédez pour pouvoir rétablir le lien et la bonne confiance entre ces enfants et les familles d'accueil?
Nous sommes dans une logique où on travaille dans un système de protection, c'est la stratégie nationale de protection de l'enfant, qui a mis des mécanismes d'alerte et de veille à travers un système qui permet à tout citoyen, renforcé dans ses capacités d'identification des signaux d'alerte qui permet de dire que tel enfant est dans une situation difficile, de pouvoir partager ce signalement auprès des ayants droit que constituent les garants de la protection de l'enfant, comme des démembrements du ministère de la Justice, de l'AMO, ou encore comme l'éducation avec l'ISDF, ou encore les districts de santé, ou encore des organisations de la société civile comme la nôtre.
J'imagine que récemment, vous avez eu affaire à un cas peut-être compliqué avec un enfant confié dans une famille.
Compliqué, pourquoi? Parce qu'un enfant de 30 mois a fait l'objet d'une agression sexuelle. D'agression sexuelle de la part de quelqu'un qui est dans la famille dans laquelle il vit. Et dans cette famille-là, il y a son oncle paternel, son oncle maternel, un de ses cousins, et ensuite un voisin et un locataire. Donc c'est comme si l'enfant est dans sa famille. Donc dans cette famille-là où on l'a confiée, pourquoi? Parce que quelque part, elle était dans une situation de faire un déplacement auprès de sa tante. Donc, quelqu'un en a profité pour lui faire une agression sexuelle. Ça peut aboutir au viol. Mais cela ne relève pas de notre responsabilité de déterminer si c'est un viol.
Oui. Vous, par exemple, quand vous intervenez dans ce domaine, qu'est-ce que vous faites?
Nous venons prendre les informations préoccupantes à partir de la source qui nous l'a envoyée. Soit par un SMS, ce qu'on appelle Rapid Protection, qui est une plateforme de partage des informations préoccupantes, au niveau de l'univers L, soit par un tiers, quelqu'un qui a été formé par notre équipe, notre organisation du monde, et qui vient vers nous pour partager cette information préoccupante, ou encore un parent qui vient nous dire, et ce parent-là peut être ce qu'on appelle une badge de mort, c'est une marraine. Et là, c'est une marraine qui nous a fait le signalement.
Merci beaucoup, Abdou Fodesso, depuis Dakar, la capitale du Sénégal. Nathalie Achard, Benjamin Pelletier, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces explications de M. Fodé depuis le Sénégal, lui qui fait la médiation entre les familles qui reçoivent les enfants et les structures étatiques?
Déjà, j'ai envie de tellement profondément le remercier du fond du cœur de ce qu'il fait, de toutes ces personnes de manière générale qui contribuent à la protection de l'enfance. Je crois qu'on a une grande responsabilité collective en tant qu'être humain, où que nous soyons, de protéger les enfants, voilà. Donc je suis déjà bouleversée et touchée par tout ce qui a été partagé. Et j'ai vraiment envie de le remercier du fond du cœur. C'est très compliqué parce que ce besoin premier de protéger l'enfant qui fait partie de nos besoins humains, effectivement, quand tout ça est mélangé, c'est-à-dire effectivement les institutions, la réalité d'une société, la réalité économique, la réalité émotionnelle, psychique, ça fait des choses terribles. Et je vois en tout cas que sa posture est la posture d'un médiateur dont le au cœur de son activité, c'est effectivement avant tout de protéger l'enfant, quoi qu'il arrive, et d'apporter des solutions, en tout cas d'être le bouclier pour faire en sorte que les choses changent. Il y a vraiment une différenciation clé qui est importante dans la communication non violente, c'est que nous avons aussi la force de protection qui est utile. C'est-à-dire que ce n'est pas une posture, quand je disais molle, où on laisse faire les choses. On la différencie de la force punitive, c'est-à-dire l'objectif n'est pas de punir, mais en tout cas de protéger quand c'est nécessaire, quand c'est vital, quand il y a une question effectivement d'intégrité. Et donc cette médiation, en tout cas, je la ressens et je la vois comme une médiation au cœur de la force de protection.
Benjamin Pelletier.
Oh ben c'est effectivement un témoignage extrêmement touchant. Je reviens à cette idée, finalement, qu'il s'agisse ici, dans ce cas très très particulier, avec les familles, les enfants, ou dans d'autres domaines qu'on évoquait tout à l'heure. J'aimerais qu'on soit conscient que cette fonction de médiateur, elle peut être formalisée, c'est une fonction professionnelle, être médiateur, mais en fait, au quotidien, nous sommes tous médiateurs, tous, les uns des autres, en permanence. Et on devrait avoir conscience que ne pas mettre cette fonction de médiateur à l'extérieur de soi, mais on l'est tout le temps et en permanence. Et c'est justement lorsqu'on pense ne plus l'être qu'il y a des risques de violence, comme c'était indiqué dans le reportage sur Paris, par exemple. Nous sommes tous des médiateurs.
Et quand on voit, par exemple, ces genres de cas difficiles de violence sur enfants, peut-on se passer de la violence, Nathalie Achard ? La communication non violente n'a-t-elle pas ses limites, parfois ?
Vous voulez dire par rapport à celles et ceux qui commettent l'inacceptable ?
Ceux qui commettent l'inacceptable et par rapport à comment on doit réagir face à ces personnes-là aussi.
Oui. C'est cette notion de force de protection. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, la première chose à faire, c'est d'arrêter l'inacceptable. Il n'y a pas de discussion possible. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi au cœur de cette communication.
On peut arrêter l'inacceptable sans violence ?
Alors déjà, dans ce cas-là particulier, de retirer l'enfant, de le protéger, bien sûr. C'est aussi la force de protection qui pourra nous amener collectivement, si on considère que quelqu'un a des stratégies qui sont coûtantes sur la société, de sortir de la société. Mais ensuite, l'idée de la communication non violente, sur ce qui est de la restauration aussi, de la justice restaurative qui est derrière la communication non violente, c'est de sortir de la logique purement classique, violente, de la punition. C'est-à-dire, si la punition fonctionnait, nous ne serions pas en train de discuter aujourd'hui.
Mais c'est un peu utopique aussi de dire que la communication non violente fonctionne forcément.
Ah non, mais de toute façon, elle ne fonctionne pas forcément partout parce qu'elle n'est pas magique. Ça reste une activité humaine. Donc vraiment, si je vous ai donné l'impression que c'était magique, je l'enlève tout de suite.
Ça veut dire qu'elle a quand même des limites aussi.
Ah, bien entendu, comme toutes les activités humaines, et heureusement.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein ?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Nous allons tout de suite retrouver l'un de nos auditeurs depuis Kinshasa, en RDC. Lionel, bonjour.
Bonjour Penaï Traoré, bonjour aux voisines et aux voisins.
Bienvenue dans 7 milliards de voisins. Alors, nous écoutons votre témoignage.
Oui, mon témoignage, il est à mer au début, mais c'est la fin qui va beaucoup plus vous intéresser. J'ai été pendant plusieurs mois victime d'un conflit laissé par mon grand frère dans un quartier là où habitait ma grand-mère. Juste après son passage, puisque la grand-mère ne pouvait pas rester seule, j'étais obligé de rejoindre la grand-mère dans le quartier. J'arrive tout nouveau et je subissais des menaces. Mais c'est dans ça aussi que je voulais préciser une chose, puisque là c'était tout à l'heure ce que vous étiez en train d'aborder tout à l'heure, et que j'ai reçu des menaces violentes, physiques. Mais j'ai réalisé que la communication violente, c'est celle qui m'a beaucoup plus dérangé. Et par des messages, ces gens-là me faisaient plus très mal. Et par contre, quand ils voulaient peut-être me tabasser, j'étais victime de tout ça. Certainement, je voulais parler à ma grand-mère, mais j'ai trouvé que ce n'était pas la solution. Du coup, j'ai été inspiré.
Et comment vous avez réagi, du coup?
Alors, à la fin, j'ai abordé une fille qui était dans le même groupe de mes agresseurs. Alors, je parlais avec la fille a compris, et la fille m'a aidé aussi à comprendre que c'était à cause du passé de mon frère dans le quartier. Et puis j'ai proposé à ces amis-là de pouvoir parler, si on pouvait dialoguer. Donc en même temps, je jouais les rôles de la partie prenante, mais j'étais aussi médiateur en même temps. Bon, ce n'était pas facile, je précise, ça m'a pris des jours, toute une procédure, pour convaincre ces gars et pour accepter qu'on puisse négocier. Donc c'est par les dialogues. On s'est compris, on a trouvé intérêt d'attendre, et je vous dis, après ça, et ces conflits nous ont aidés aujourd'hui à être vraiment une famille. Et je bénis la vie, puisque la vie qui a permis que je passe par ce conflit, un conflit par lequel je gagnais une famille, les amis avec qui aujourd'hui nous fondons, on réalise des choses, nous réalisons des projets, ben je suis très content. Et moi, je pense que les dialogues restent ça peut être le seul ou comme le premier remède pour régler tout conflit, à mon sens.
Merci Lionel pour ce témoignage pacifique. Vous êtes partisan du dialogue, donc Benjamin Pelletier.
On revient encore une fois à la source de ces enjeux de conflit, quel que soit le contexte. Et d'un côté, on parle beaucoup de violence, c'est dès qu'on utilise la force ou la contrainte ou la menace, comme il était dit là. Et après, alors, cette expression de communication non violente est un peu négative, on dit non violente, mais si je la transforme, alors je ne sais pas comment Nathalie Achard réagirait, je pourrais dire qu'il s'agit plus d'exercer de l'influence, et, que ce soit dans l'éducation ou bien en entreprise également. Je vois beaucoup de cas où on arrive pas à travailler avec les partenaires indiens ou japonais, et donc on veut absolument imposer nos pratiques sans saisir bien un moyen moins direct, moins frontal, moins contraignant. Et bien c'est aussi d'avoir une culture ou de l'art de l'influence, et ça parfois on ne l'apprend pas trop, et c'est pas évident.
Et Nathalie Achard, cet auditeur qui nous racontait, il était menacé dans son quartier du fait du passif de son frère. Il est passé par une fille du groupe pour instaurer le dialogue avec ce groupe.
Ouais,
son exemple, ça vous inspire?
C'est exemplaire. Parce qu'effectivement, là, on se retrouve dans une logique où il y a ce qu'on appelle les préjugés et l'amalgame. C'est-à-dire qu'il y a eu l'amalgame de ce que son frère a fait, et donc le groupe s'est solidifié autour de ce préjugé. Ça se retrouve partout, ça. Et le groupe, quand il se solidifie autour d'un préjugé, il devient très limité. Pas au sens, c'est pas évaluatif, mais en tout cas, il a un seul objectif qui va être effectivement de détruire ou de soumettre l'autre qui rentre dans le cadre de son préjugé. Et donc, en allant chercher un individu, c'est-à-dire en individualisant le groupe et en créant un lien d'humain à humain, de regard à regard, de cœur à cœur, je sors du préjugé de l'amalgame et je dissous ce groupe qui s'est enquisté autour d'un préjugé. Et c'est le dialogue qui permet de faire ça. Oui, tout à fait. Alors après, pour ce que la non-violente, parce que j'ai envie de rebondir sur la communication non-violente, effectivement, ce terme, moi-même, je travaille dessus. Et pour moi, ça va être plus une communication du dialogue, hein, au sens où au cœur de la communication violente, c'est que c'est la connexion avant la solution, avant l'action, avant l'éducation. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai pas déjà un projet sur l'autre quand je rentre en communication. J'ai la confiance que c'est justement ce comme a fait cet auditeur, dans la communication, dans le pont que je vais créer entre eux, elle, lui et moi, que je vais avoir plus de chances de faire passer nos idées. Quoi.
7 milliards de voisins.
On est plus semblables que différents.
Faut tenir compte des voisins.
7 milliards, pour moi, c'est totalement vertigineux. 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète. 7 milliards de frères et de sœurs.
Nous avons un autre auditeur en ligne, et c'est toujours depuis la RDC à Kinshasa. Anthony, bienvenue, bonjour.
Bonjour, bonjour Pénaï.
Vous avez quelque chose à nous dire par rapport à votre relation avec votre copine?
Ah oui, effectivement, comme vous l'avez dit, moi je suis Anthony, j'ai 29 ans, je suis en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément, comme vous l'avez souligné. En fait, mon tout dernier conflit marquant remonte à un peu plus de 4 ans et demi aujourd'hui. J'étais en deuxième licence, je vivais avec une petite amie avec qui on a eu un enfant, qui a 5 ans aujourd'hui, alors qu'elle venait de décrocher son bac. Alors ses parents avaient préféré de la garder chez eux pour qu'elle puisse continuer avec ses études universitaires. Un soir, comme d'habitude, je suis allé leur rendre visite pour savoir comment ils avaient passé la journée et tout. J'ai trouvé que le petit était brûlé à la main droite avec de l'eau bouillie. J'ai demandé à sa maman ce qui s'était passé pour que l'enfant ait cette main calcinée. Sa maman m'a dit que l'enfant s'était renversé de l'eau pendant qu'il cherchait à marcher à quatre pattes. Vous savez, quand les enfants commencent à chercher à marcher à quatre pattes, ils parcourent toute la maison pour l'inspecter. Et par inadvertance, il est allé se faire renverser de l'eau sur la main. Et par rapport à ça, j'ai voulu faire remarquer à sa maman qu'elle n'était pas capable de s'occuper bien de l'enfant et tout. Et sa maman n'a pas bien digéré et tout ça, et ça a créé une sorte de dispute entre nous.
Merci beaucoup, Anthony, pour ce témoignage. Et nous allons écouter une autre auditrice depuis Abidjan, Jeannette, qui a un témoignage très édifiant à nous faire partager.
Je suis Jeannette de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours été du genre à affronter les conflits jusqu'en 2013, où, à la suite d'un conflit avec un voisin, j'ai décidé de me calmer. En 2013, je devais effectuer un voyage et en cours de route, je me rends compte que j'ai oublié un document important. Je fais un demi-tour pour venir chercher le document. Arrivé au bas de l'immeuble, je constate que mon espace de stationnement est occupé. Alors, je décide de me mettre sur l'espace de quelqu'un d'autre en vue de prendre mon document, juste 5 minutes. Un voisin sort de nulle part et me demande de ne pas me mettre là, alors que ce n'est pas son espace. Je lui dis, mais tiens, ce n'est pas votre espace et vous venez comme ça m'interdire. Il me dit, non, tu ne gares pas. Je dis, oui, je vais garer. Ce voisin militaire-là, il terrorisait tout le quartier à l'époque. C'était vraiment hors la loi. Et moi, je lui dis, si vous avez l'habitude de terroriser tout le quartier, ce n'est pas avec moi. Vous jouez avec moi, je vous règle votre compte tout de suite. Celui qui était à côté avait un peu peur, c'était un peu David contre Goliath. Et ce monsieur, se sentant humilié, va me porter, mais moi, je vais réagir, je vais lui envoyer une gifle, pas possible. 10 minutes après, ce monsieur se plaint de douleurs atroces dans le corps. Il sera envoyé à l'hôpital militaire d'Abidjan où il passera un mois. Il en ressortira paralysé. Jusqu'à ce jour, 7 ans, il est toujours paralysé. Cette situation a provoqué une grande joie dans le quartier. Les gens me félicitaient partout, mais j'étais triste. Parce que ce monsieur, même s'il a un peu débordé, mais il ne bougera pas. Ça m'a marqué. Et désormais, j'ai décidé de mettre balle à terre. Aux invités qui sont là, j'aimerais savoir quelle devrait être ma conduite à tenir à l'époque. Merci.
Nos deux invités, Benjamin Pelletier, Nathalie Achard, qu'est-ce que vous répondez à cette auditrice et aussi le conseil que vous donnez aux autres auditeurs ?
Comme ça, là, directement, c'est pas simple, hein, je vous le dis clairement. Je vois qu'effectivement, en tout cas, cette dame faisait le choix de faire face au conflit.
Sa réaction a laissé une marque à vie.
Sa réaction a laissé une marque à vie et je sens qu'elle elle ressent de la culpabilité, cette culpabilité, parce que je me sens coupable d'avoir fait quelque chose. Ça va peut-être paraître un peu détaché, ce que je vais dire, mais elle ne savait pas, de toute façon, quelle serait la conséquence de son geste. Toujours est-il que cet acte de violence, la violence n'a jamais éteint la violence, la haine n'a jamais éteint la haine. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'important, c'est que de toute manière, la violence, quelle qu'elle soit, quel que soit le niveau, a des impacts catastrophiques. Ça, c'est on ne peut pas tourner autour, quoi.
Benjamin Pelletier, qu'est-ce que vous avez à dire à cette auditrice qu'est-ce qui aurait dû être ta réaction ?
C'est vraiment un cas très, très particulier, singulier. Je ne peux pas trop me prononcer. En revanche, ce que disait Anthony en faisant référence à l'importance de l'entourage, du groupe, du collectif, de la famille, c'est absolument essentiel. Et je vois beaucoup dans les entreprises la difficulté, alors je prends des Français ici, qu'ils ont à comprendre à quel point un conflit peut gagner en intensité lorsque vous avez affaire à un partenaire, un contact, qui incarne une lignée, une famille, une tribu parfois, une communauté, et qu'il y a des questions d'honneur et de respect qui entrent en jeu. Et on a beaucoup, beaucoup de mal à le comprendre. Et je dois faire beaucoup d'efforts pour qu'ils prennent en compte ces dimensions-là qui sont un peu étrangères à notre approche. Et c'est malheureux.
Merci à vous, Nathalie Achard. Votre premier livre qui vient de sortir, La communication non violente à l'usage de ceux qui veulent changer le monde. Vous aviez corrigé le titre tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Vous avez rajouté un mot. Et nous recevons aussi Benjamin Pelletier. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau de 7 milliards de voisins. Il y a ma vérité et ta vérité qui ne se rencontreront jamais. La vérité se trouve au milieu pour s'en rapprocher. Chacune doit se dégager un peu de sa vérité pour faire un pas vers l'autre. C'est sur cette citation que vous reconnaissez bien, Nathalie Achard. Elle est de Amadou Ampateba et que nous refermons cette émission. Merci de nous écouter sur RFI et merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Cécile Lavelot, Delphine de Dianous, Romain Dubrac et Alix L'Hospital. Et vous pouvez toujours écouter ou réécouter les émissions de RFI sur RFI Pure Radio. Tout à l'heure.